CFM,
CFM
sur le Grand Rodez. 107.9. CFM.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Vous est présenté par Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olt et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Hola a todo el mundo. Ahora, el momento tanto esperado.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour. Bonjour Pascal Olivier.
Salut à tous.
Bonjour Christophe Bory.
Bonsoir Rémi, bonsoir tout le monde.
Bonjour Gaël.
Bonsoir tout le monde. J'attendais l'erreur en fait.
Ouais, mais j'ai failli.
Du
mais
coup,
j'ai pas fait.
Ah non, c'est bien.
Non, j'ai pas fait.
Il y a du progrès.
Ouais,
bonjour donc Rémi. Taureau est là.
Appelle-moi Paul. Bonjour Charlotte.
Et rebonjour Rémi.
Et ben voilà, Charlotte qui, pour sa dernière journée parmi nous à CFM, est aussi dans Qu'est-ce qu'on déguste. Elle nous donnera sa meilleure recette de cuisine tout à l'heure.
Et des bulles en l'honneur de Charlotte.
Et on boit des bulles en l'honneur de Charlotte. Qu'est-ce qu'on déguste ?
Alors là, des perles d'Antan, c'est un mosaque nature de Claude Leduc. Claude Leduc, il est vigneron bio, nature et progrès à Castelnau de Montmiral. Et on l'avait rencontré quand on avait fait notre émission Appuie celle-ci.
D'accord.
Donc j'y suis allé cet été pour chercher ça parce que c'est très très bon.
On a intérêt à boire du naturel et du bio aujourd'hui puisque ça va être un peu notre créneau tout le week-end. Vous savez que dimanche, nous serons en direct de la 21e foire bio de Montauban, la foire bio Synergie. Ce sera sur le site de Rythmie et nous y animerons un Qu'est-ce qu'on déguste hors série à partir de 11h30. Il sera évidemment largement question de nature et progrès qui fête c'est combien, c'est
40 ans,
son anniversaire, 50 ans, 50
depuis 1900, ans, attends, depuis 1900. 68, oui.
Nature et progrès ?
Oui, bah c'est marqué là, nature et progrès depuis, mais c'est un
46
petit.
Alors ?
Ah bah 50 ans, hein.
Ouais, voilà.
Hein ?
Ouais,
c'est ça.
50 ans de nature et progrès. Et donc, Claude Leduc, vigneron à La Tronque, à Castelnau de Montmiral, et nature et progrès.
Ah bah voilà, donc on en parlera dimanche. Peut-être qu'on va en parler quand même un peu ce soir parce que je sais pas s'il n'y a pas un des responsables de l'association Biosynergie qui ils sont en train de tout d'installer, de préparer les choses autour de Rythmie à Montauban à cette heure-ci. Il viendra peut-être nous rendre une petite visite.
Ah bah,
ça c'est
pour
bon
toi, bah, ton verre.
Tu es gentil. On va s'intéresser aussi aujourd'hui aux nuits frappées de Bruniquel. Alors les nuits frappées de Bruniquel, c'est à Bruniquel, c'est ce week-end que ça se passe. C'est ce soir, hein, je crois, demain,
samedi et dimanche.
Et tu sais qu'il y a Sandy, notre cher
Sandy Batucada.
Voilà,
c'est parti de Batucada.
Sandy Jolibert, qui nous amène quelques bonnes bouteilles de temps en temps, fait partie de cette Batucada. On lui passera un petit coup de fil. Ensuite, on aura au téléphone Claude Moreau, qui est le grand maître de la confrérie de la cagouille.
Ça, c'est la classe.
Il est aussi appelé le grand gastéropode.
C'est mystérieux.
Et oui. Et alors, donc, nous l'appellerons. Il est dans le nord des Charentes-Maritimes. J'ai pensé, en fait, que ça ferait plaisir à Georges Bonfils, qui n'est pas là aujourd'hui, et qui est bien excusé, puisqu'il est parti en vacances en Espagne. Et quand il va en vacances en Espagne,
il mange
des escargots.
Caracole.
Voilà. Et savez-vous que les Charentes-Maritimes sont le premier producteur de France d'escargots? Voilà. Il y a le plus gros, il y a plus grosse ferme
Héliciculture,
voilà, en Charente-Maritime, on en parlera avec Monsieur Moreau tout à l'heure.
Mais 50 ans de nature et progrès, hein, 1964-2014.
Oui.
C'est tout.
Merci. Et puis on passera aussi un coup de fil à Simon de la cave BBR qui a déménagé, la cave bleu blanc rouge. Bio Blanc Rouge, pardon, qui a déménagé, toujours rue du Greffe, hein, un petit
il
peu
a
plus
déménagé
loin,
il a avancé de 50 mètres.
Il a un peu plus d'espace dans sa cave et on l'embêtera un petit peu pour qu'il nous donne le vin de la semaine. D'accord?
Ça, c'est une bonne idée.
Alors, on trinque.
Allez, chin, c'est qu'est-ce qu'on déguste
et ça démarre comme ça. Oula! Oula!
On commence par des tâches.
Ah, tiens.
Ah, ben oui, mais toi, ils nous ont fait.
Come on, young.
fatigué. On me sortit les mots si j'ai mal dormi. On me sortit les mots si j'ai mal à la tête. On me sortit les mots si je suis fatigué. Every night and every day. Every night, every day.
C'est tout chaud, j'adore ça, ce mélange de son africain, de son funky. Ce
sont
des jeunes,
voilà,
tout à fait, ouais, des jeunes lyonnais qui, je pense, étaient de l'afrobeat, qui sont partis au Togo et au Bénin rejoindre Peter Solo. Et donc, ils ont fait ce mélange de son tout à fait funky et africain. Et l'album sort la semaine prochaine, ça s'appelle Voodoo Game.
Alors, dans Qu'est-ce qu'on déguste, on va s'intéresser à cette grande fête de la Batucada qui se déroule demain et après-demain à Bruniquel. Ça s'appelle Les Nuits Frappées de Bruniquel. Cette Batucada, 110 percussionnistes, des milliers de personnes.
Sandy
Jolibert qui a raccroché son téléphone. Ça ne va pas du tout, Sandy. Eh oui, non, mais parce que...
Elle aurait pu venir, quand même.
En fait, elle est en plein préparatif.
D'accord.
Elle est en plein préparatif.
Elle est en train
c'est
de
pour ça
sa jupe.
On l'appelle là-bas voir si elle a ses petits souliers rouges.
Ouais, l'entrée de bain, dès quelle paire de souliers elle va porter ce week-end.
C'est ça. La grande question, c'est quelle paire de souliers porte Sandy Jolibert et quel vin elle conseille pour les nuits frappées de Bruniquel. Parce qu'il y a les vendanges à l'ancienne aussi à Bruniquel très prochainement, là.
Des Coteaux du Quercy.
Ouais.
On l'appelle aussi en des Coteaux du Quercy, donc ça devrait être.
La semaine prochaine, non?
Peut-être la semaine prochaine.
Oui, c'est bientôt, en tout cas.
J'ai pas l'info dessus, mais je pense que c'est peut-être la semaine prochaine.
J'ai Google en face de moi, je vais vous le dire dans pas très très longtemps. Les vendanges à Bruniquel, ce sera pour plus tard. Là, ce que je voudrais, c'est qu'on ait avec nous par téléphone notre cher Sandy Jolibert.
Il se passe plein de choses à Bruniquel. On n'a pas arrêté de me parler de ce concert de Laurent Purchal.
Ah, c'était exceptionnel. C'était magique.
On m'a dit que c'était... Très bien.
Ils avaient un nouveau set d'éclairage et sur le château. C'était magnifique. Et puis bon, ils sont au point ça, depuis le temps qu'ils tournent sur ça. Enfin, c'était vraiment bien. Et au niveau du son et au niveau de l'image.
Allô, Sandy.
Oui, hola, guapo, guapa.
comment vas-tu et comment se préparent ces nuits frappées à Bruniquel?
Eh bien, écoute, ça se prépare bien. Je suis ravie de vous accueillir ici à Bruniquel. C'est un plein préparatif de journée du patrimoine qui se déroule partout en France et notamment à Bruniquel. Et à cette occasion, plusieurs animations se mettent en place dans ce magnifique village de Bruniquel. Et comme tu disais tout à l'heure, Rémi, alors il n'y a pas 110 musiciens, mais il y en a 140 musiciens qui défileront demain dans les rues du village à partir de 19h. Pour ensuite se répartir dans le château et animer toute la soirée.
D'accord. Et en même temps que je te parle, je découvre, grâce au site de Bruniquel, que les nuits frappées sont en corrélation directe avec la fête des vendanges, parce que la fête des vendanges, c'est demain.
C'est en même temps, donc, la fête des vendanges de l'AOC, Coteau du Quercy. Avec la pressée le pressoir du château, et on achète des verres de jus de raisin, et c'est magnifique, c'est très très bon.
Tout à fait. Alors, le week-end se déroulera ainsi. Le samedi, donc il y aura la montée au château avec les 110 musiciens qui vont partir à 19h du bas du château jusqu'en haut. On y retrouvera divers artisans bien connus de la région, notamment les glaces de Puy-Selfy, la butinerie de Saint-Antonin-Noble-Val, les balettises de Montauban, Artusy Traiteur qui est sur Bruniquel. Et une toute nouvelle crêperie qui se trouve à Cordes-sur-Ciel, qui s'appelle la crêperie de Sandy. Ce n'est pas moi.
Je te dirais, fais-tu des crêpes.
Et un autre artisan qui est de l'Ariège, lui, et qui va nous faire un bar à pâtes. des pâtes artisanales avec des sauces artisanales.
D'accord.
Donc le festival s'appelle bien L'Hémitrope et Brinquel. C'est organisé par la troupe de musique de Montauban qui est Fondation Factory. C'est la troisième édition. Ce festival, c'est la troisième année qu'il se déroule. Les groupes viendront d'Espagne, de Gap, de Narbonne, de Lyon et de La Rochelle. Et donc le dimanche, le château ouvrira grandement ses portes pour accueillir les vignerons du Quercy, qui nous feront déguster leur somptueux élixir. Et donc c'est bien la fête des vendanges qui va se produire ici à Brinquel tout dimanche.
D'accord. Donc, Sandy, j'imagine que pour... ce week-end, vous allez boire des vins des Coteaux du Quercy, parce que j'allais te demander quel était ton vin pour ce week-end. Et quel est-il ?
Les Coteaux du Quercy.
Ah bah oui, forcément. Ah, mais lequel ? Lequel parmi, parmi tous les vins des Coteaux du Quercy ?
Alors là, je ne pourrais pas vous dire là maintenant, parce que je ne les ai pas en face de moi et que je ne pourrais pas vous dire, mais je sais qu'il y a tous les vignerons qui ont participé et qui nous ont laissé chacun des... des bouteilles pour nous faire découvrir leur cuvée.
Bon,
il y a beaucoup de vignerons, enfin, la plupart des vignerons en fait participent à la fête et tous donnent de leur vin en fait pour nous abreuver.
Bon, il y a l'Artigue, il y a Buissou, il y a
oui, Domaine de la Fage, bien sûr, en bio, il voilà. Y a Eric Carle depuis La Roque, est très très bon.
Voilà.
Aussi.
Bon, enfin, il y en a plein. Ça se passe ce week-end, c'est à Brunichel, 7 batucadas de France et d'Espagne pour les nuits frappées de Brunichel et la fête des vendanges. Bon week-end. À bientôt,
merci
Sandy.
Beaucoup, à vous. Ciao. Merci, bisous.
Salut, Sandy.
Je n'ai pas demandé quelles étaient la couleur de ses souliers, zut.
Ah,
un cuir marron.
En cuir marron.
Oh là, tu vas avoir chaud.
Cuir, en cuir. À bientôt, Sandy.
Elle n'avait pas raccroché. Heureusement qu'on n'a pas dit des cochonneries.
Je pense qu'elle attendait les chaussures. C'est pour ça qu'elle a pas raccroché.
Qu'est-ce qu'on déguste la suite dans quelques instants. Tiens, santé. Après, peut-être un petit peu
c'est
de...
Bien, c'est bien ces bulles. Hein, c'est... Ah, vous avez des verres vides, ouais, là, les gars. Ça ne va pas du
bien,
tout.
C'est tellement bien qu'on en a...
On va écouter Myriam Makeba, non ?
Vu là, Pascal ?
Oui. Pour quelle raison ? Ouais, je l'avais parlé l'an dernier.
Bien
superbe passé. Album.
Bah parce que la semaine dernière, Georges a passé Nina Simone et puis dans un moment d'égarement, j'ai dit qu'elle était d'Afrique du Sud et j'ai confondu avec Myriam Makeba.
C'est ça.
Donc Georges étant pas là cette semaine, on va remettre le compteur à zéro et on va jouer Myriam Makeba tout à l'heure. Mais en Afrique du Sud, il n'y a pas que Myriam Makeba. Il n'y avait pas que Myriam Makeba puisqu'elle est décédée en 2008. Mais il y a aussi Laurent Dula. Qui est anglaise mais originaire d'Afrique du Sud, et je trouve que c'est particulièrement bien.
C'est magnifique ce album.
Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's so okay now. Bathing the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden. Fly on the wings of a butterfly, high as a treetop, down again. Putting my bag down, taking my shoes off, walking the carpet, a green velvet.
Take me outside.
magnifique premier album de Lorraine Vulla qui est sorti l'an dernier. Elle a commencé sa carrière dans des chorales et elle a continué. C'est vraiment, vraiment une belle voix, toute une atmosphère. Un album très relaxant aussi. Laura M. Vulla.
Qu'est-ce qu'on déguste, monsieur, dame, en direct de notre studio préféré à Montauban, au 5 boulevard Garrison?
Moi, c'est le préféré parce qu'on en a qu'un en plus.
Ah bah non, on pourrait très bien faire ça en direct du studio de Rodez, de Caillou, de Villefranche, de Corne, ou en direct de notre studio extérieur, sur quand on est sur notre théâtre d'opération préféré, qui est la Foire Bio, et ça, ce sera dimanche. Hein,
11h30, 13h.
Dimanche, 11h30,
13h. Sur le cul, sur nos bottes de paille, bio, bien entendu.
Pour fêter les 50 bougies de nature et progrès. D'ici là, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans cette émission? Eh bien, on vous fait une petite proposition de lecture.
Allez, un gros bouquin. Il est rare de trouver des livres intéressants qui concernent le hip-hop. Eh bien, j'en ai trouvé un. Écrit en plus par un Toulousain qui s'appelle Jean-Pierre Labarthe. Le bouquin s'appelle Gangsta Gumbo. Il a co-écrit avec Charlie Braxton et il remonte à la source du hip-hop du sud des États-Unis. Et le titre du bouquin concerne qu'est-ce qu'on déguste, puisque le gumbo... Je sais pas si tu connais le gumbo, Pascal. C'est aussi appelé gumbo.
Non.
C'est un ragoût originaire de la Louisiane française qui a été créé. Toi, tu connais, Gaël?
Vous avez entendu Pascal Olivier, oui, le druide de la gastronomie.
C'est la première fois.
Il est écrit sur la page Facebook de CFM.
Ouais. C'est la première
a dit,
fois.
Je connais non. pas. Non, je ne connais pas.
Non, mais quand on ne connaît pas, il faut bien
s'amuser. Ça arrive pas souvent, c'est vrai.
Mais non.
Ça,
je pense qu'on a franchi le Rubicon.
Là. Oui, con. Là, il est mort. Il est laid. Il est pas beurre à terre. Comment t'appelles ça d'ailleurs, le
gumbo?
Gumbo ou gumbo? Soit le haut, soit le haut. Le gumbo, c'est des espèces de comme des haricots verts, si tu veux, africains. Mais là, je connaissais pas cette spécialité de la Louisiane.
Ça vient de la Louisiane. C'était créé au cours du 18e siècle. Ça se compose d'un bouillon fortement aromatisé, de viande et de crustacés, d'un épaississant et de légumes. Le mélange viande et crustacés.
Ah, parce que c'est pas mal.
Si, un poulet aux écrevisses.
Ouais, c'est vrai.
Ouais,
c'est vrai.
Voilà, l'Orléans, il y a pas mal. En plus, ils cuisinent pas mal.
Mais ils ont tendance à abuser sur le piment.
Ça doit être très fort.
Le piment et l'alcool.
Oui.
Gumbo donc pour cette mixture et gangsta pour le côté hip-hop et tout ça dans le Dirty South, donc le sud des États-Unis qui a vu naître le blues, la soul, le jazz, le rock'n'roll et le funk et qui a ensuite produit ce hip-hop moite et rêche. Pourquoi une anthologie du rap sudiste? Parce que ce sud est un terreau riche sur lequel a poussé le rap à Miami, la New Orleans, la trap music d'Atlanta notamment, et le screw du Texas, de Houston, ce hip-hop ralenti avec des effets de répétition qui a un effet hypnotique, surtout quand ses auditeurs boivent leur boisson à base de Sprite et de codéine. Oh. Ils s'envoient ça, voilà, un mélange très
Sprite,
dangereux, ouais, ça, la langue pour le foie. C'est le cocktail favori des fans de Screw. On va en écouter un petit peu de Screw avec un album de remix de la grande chanteuse Aliyah, revu et corrigé façon Screw, donc par DJD, dont on parle dans ce livre de Jean-Pierre Labarthe, Gumbo Gangsta.
Let me see you go bad. Let me see you come. Let me see you go bad. Let me see you come. Let me see you go. Let me see you go. Let me see you go. Let me see you go bad. Let me see you come. So get up and let this fucking go. Get
L'épisode de Gangsta Rap aurait pu tourner court avec les meurtres de Tupac et de Biggie Smalls survenus en 96-97. En effet, les morts médiatisées des deux plus monstrueux égaux du rap des 90s ravivent les polémiques envers la rétive nation hip-hop taxée de véritables moutons noirs par la middle class afro-américaine, elle-même soumise au diktat carriériste de la bien-pensante société blanche. Tandis que l'on pérore sur le fait d'enterrer la hache de guerre sur la côte ouest, Kadhafi de The Outlaws et Mr. C viennent tour à tour d'être tous deux victimes de drive-by shooting, pendant que Suge Knight, le big boss ambigu du label Death Row, se fait finalement arrêter et emprisonner. Cascade de tragédies qui viennent à point nommé réaffirmer qu'une page de l'histoire est en train de se tourner et qu'il est grand temps de stopper la guerre intestine qui décime la scène hip-hop US.
C'est vraiment pour les spécialistes, hein, parce que ouais, je n'ai rien compris.
Moi non plus, je trouve que c'est
gangsta du hip-hop. Ah,
c'est écrit façon universitaire, le mec il a fait une thèse, quoi.
C'est écrit de façon un peu scolaire, mais bon, il n'y a pas beaucoup de bouquins écrits en français sur le hip-hop, donc ça ne sort
pas
mal.
Français,
c'est en français, ouais.
Oh putain, merde, j'avais pu mettre pas ça.
C'est Toulousain qui l'a écrit. Jean-Pierre Labarthe, accompagné de Charlie Braxton. Gangsta Gumbo.
Gangsta Gumbo, édition camion blanc.
Ouais. Voilà, au camion blanc.
Au camion blanc.
Bon.
Allez.
C'est l'heure.
La suite de Qu'est-ce qu'on déguste, ce sera dans la prochaine demi-heure. On va s'intéresser, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a au programme. Ah si, mais bien sûr, à la confrérie de la cagouille. Et on va appeler le grand gastéropode Claude Moreau.
Il est sorti de sa coquille.
C'est ça. On va l'appeler en Charente-Maritime. Comment s'appelle la province au nord de la Charente-Maritime? Pascal Olivier, attention, tout fout le camp.
Je pas du tout.
Le nord au Nice.
Le quoi?
Onis.
Ah oui, l'Onis, oui, c'est parce que oui.
L'Onis et la Saintonge.
Voilà, l'Onis et la Saintonge, on apprenait ça au CM2, en histoire-géographie, enfin en géographie. Et lui, il le sait. Pourquoi on m'interroge à moi? Alors que lui, il le sait.
Mais parce que c'est toi, le druide de la gastronomie.
Ah oui, justement, le druide.
Tel qu'il est écrit sur notre page Facebook.
Il a perdu sa sœur.
Simon Delperrier, un petit peu plus tard, nous donnera les vins de la semaine. Et puis, on passera aussi un petit coup de fil. On va lui faire une surprise, elle ne le sait pas encore, à une dame qui va animer des ateliers de samoussa dimanche à la foire Biosynergie.
Samoussa Connexion.
CFM à Montauban. 101.2.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Fronton et des Côtes d'Olt? Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste, la suite? Alors vous savez que dimanche à partir de 11h30, on animera une émission hors série en direct de la foire Biosynergie devant Eurythmie. Il y aura Pascal Olivier qui est ici présent, tout va bien.
Notre druide
gastronomique.
Oh, le druide. Oh.
Il va falloir prendre des vitamines. Hein. Aujourd'hui, il perd un peu la boule.
Non, il perd un peu la boule.
Il y aura Gaël Stenba qui sera présent aussi dimanche.
Druide, oui, bien sûr.
Ouais. Il va boire un coup, le druide.
Moi, je serai là, mais il va falloir que je trouve une chronique en rapport avec le bio.
Eh ben oui. Il y a tellement de belles choses qui vont se produire sur cette foire bio dimanche. Est-ce que Pascal, au lieu de servir des verres comme on avait prévu dans notre planning, tu pourrais nous donner un tout petit peu le programme?
Ah ben le programme, non, le programme entier non, parce que vous avez un superbe programme papier aussi qui se trouve en PDF sur Calameo. Mais moi j'ai retenu des ateliers parce que c'est toujours intéressant les ateliers proposés à la foire bio. Un qui est vraiment intéressant, Samosa Connexion, 3 ateliers, donc un atelier de 11 à 12, de 14 à 15 et de 16 à 17.
Ouais.
Après, il y a un atelier du grain au pain. Alors là, on vous a un paysan boulanger qui s'appelle Laurent Larieux, qui est dans le Gers, qui vous explique tout sur le pain, le machin. On en fait et vous pouvez repartir avec.
Le pain et le machin.
Voilà.
Il y a le pain et le machin. Non, mais il baisse le druide, moi, je trouve. Voilà. Il baisse le druide.
Et puis après, vous avez l'atelier de Rosendo, qui fait ses croquis et puis vous allez le chercher. Mais là, moi, je me suis intéressé à Samosa Connexion, donc d'Arminiassi Lafont, que l'on va avoir au téléphone. Non, c'est son mari, Benoît Lafont, qui va nous répondre. Et je voudrais bien savoir qu'est-ce qui va se passer pendant cet atelier. Donc, une heure de 11 à 12, une heure de 14 à 15, une heure de 16 à 17. On va pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est que le samoussa, on va pouvoir les plier, le roulage des nems, des rouleaux de printemps, etc. On va devenir un expert en pliage et roulage.
Mais moi déjà, ce que j'adore, c'est le titre.
Samoussa Connection.
Samoussa Connection.
Elle est balinaise, Dormi.
Bonjour Benoît.
Bonjour.
Merci d'accepter d'être avec nous dans Qu'est-ce qu'on déguste, un peu au pied levé, parce qu'on vous a même pas prévenu, hein, on vient de vous appeler un petit peu à la
rage. Et où qu'elle est, Dormi?
Professeur de l'école.
Pardon?
Je vais à la réunion des parents professeurs de l'école de mes enfants.
Ah oh, bon, bah, vous
avez... sur le bord de la route.
Vous avez deux minutes, ok. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est la Samoussa Connection?
Bah, en fait, ma femme monte un atelier à côté de Lozère, à Ceinture 6, en fin d'année, là, pour faire des Samoussa. Et c'est notre petit réseau de commercialisation qu'on a appelé comme ça, quoi.
D'accord. Bon, et vous serez donc présent, votre femme sera présente dimanche pour justement animer des ateliers à trois moments de la journée, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ouais. Donc on fait comment? On s'inscrit sur le moment, sur place?
Je crois qu'on peut s'inscrire sur place. En fait, on va animer pour 10 personnes. Après, les autres seront plus spectateurs, quoi. Et on a quelques inscriptions déjà, et si les gens veulent appeler, ils peuvent appeler pour réserver. Mais...
Alors 06 77 39 44 39, si vous voulez apprendre à plier des samoussas, la pré-cuisson, le roulage, mais il n'y a pas que les samoussas, il y a aussi les nems, les rouleaux de printemps, etc. etc.
Vous le faites, vous, Benoît, par exemple, c'est compliqué à faire, les samoussas ou pas?
Non, bah, j'aide ma femme à les faire de temps en temps, quand on en fait pour les amis, c'est facile.
Il y a quoi dans le samoussa?
Alors, ma femme, elle fait une petite recette un peu à sa sauce à l'indonésienne, mais on peut mettre un peu tout ce qu'on veut, de la viande, des légumes, si on est végétarien. Là, c'est très simple, c'est juste une manière de plier de la pâte de brique, et puis on staffe avec ce qu'on veut, quoi.
On peut mettre le confit de canard, ça m'en sert, le confit de canard.
Ouais, le confit de canard, c'est génial, le confit de canard, on l'a déjà fait.
On va essayer ça.
Et la petite recette indonésienne de madame, c'est quoi?
Voilà, c'est gingembre, citronnelle, kombawa, ail, échalote. Voilà, quoi, c'est un mélange, c'est comme sa mère, quoi.
génial. Et alors donc, il y aura, tout le monde pourra pas participer aux ateliers, mais vous en vendez aussi sur place, hein? On pourra en manger, je veux dire. Vous en vendez sur place?
Ah ouais, après l'atelier, on fait dégustation commune de ce qu'on aura fait. Comme ça, on rigole quand on les cuit, ils explosent, c'est marrant.
Alors, je pense que vous ne savez pas, mais vous êtes invité autour à la table de Qu'est-ce qu'on déguste sur nos bottes de paille à venir nous faire goûter quelques samoussas.
Ah bah oui, ça sera...
C'est ma femme qui fera ça.
Ah bah écoutez,
ah bah oui, non,
quand on est au téléphone, c'est un peu compliqué, mais quand elle est en face, elle sait quand même parler.
Et puis on pourra les goûter, donc...
Et puis voilà, et
plus
puis...
facile pour un atelier.
Et puis comme l'émission s'appelle Qu'est-ce qu'on déguste et qu'on sera en direct, vous avez bien compris qu'il faudra qu'on déguste.
Ah ouais, allez, déguste.
Ça marche. Merci Benoît d'avoir accepté
merci.
Cette petite interview au pied levé. À bientôt.
À dimanche.
Un peu de musique avant qu'on appelle le roi de la cagouille.
Allez, Oscar. Le grand maître.
Le grand druide de la cagouille. Quoi. Le grand gastéropode.
On écoute Bibio Sound Machine et je vous en parle après. Tiens.
Moi.
morceau diabolique qui donne envie de danser. Ah ouais. D'ailleurs, ça s'appelle Let's Dance. C'est une découverte de cet été. Ibibio Sound Machine. Ibibio comme l'ethnie d'Afrique de l'Ouest, majoritairement au Nigeria. Donc les Ibibio, ou Ibibios, je sais pas comment on dit. Le groupe a été formé par Eno Williams, une anglo-nigériane qui chante le Nigeria depuis Londres et qui est signée sur le label Sunway. Ce premier album est rétro-futuriste puisqu'il fait appel autant au cuivre soul et afrobeat qu'à quelques distorsions électroniques, un traitement des basses qui est vraiment moderne. Ibibio Sound Machine, donc mélange londonien, Nigeria, électro, groove et inspiration traditionnelle. Un très très bon disque avec des morceaux dansants comme celui qu'on vient d'écouter, Let's Dance, et des morceaux beaucoup plus calmes. Et...
C'était pas Shadé qui était anglo-nigérienne aussi?
Oui.
Aussi, je pense.
Shadé, oui.
Exact.
Donc ça produit des bons trucs, quoi.
C'est le côté Ibibio Tech.
Ibibio.
C'est pour le marché
Ibibio
Tech.
Ibibio Tech. Ibibio Tech. Le marché Ibibio de dimanche. Voilà. Ouais, nous allons être.
Ibibio Sound Machine.
Qu'est-ce qu'on déguste? On va s'intéresser maintenant à une confrérie. On appelle régulièrement des confréries dans cette émission. Et aujourd'hui, direction la Charente-Maritime, plutôt même le haut de la Charente-Maritime.
Pays d'Onis.
Ouais, voilà comment là-bas on prépare les petits gris à la charentaise. Après nettoyage des cagouilles, elles doivent être encore vivantes, on les jette dans un faitout dont le fond est tapissé d'huile chaude. On les fait sauter, puis on ajoute alors des morceaux de jambon et de farce. Saucisse et veau, c'est moins gras. 150 grammes de chaque pour 100 cagouilles. Des oignons, de l'ail, du vin blanc, du sel, du poivre, des épices. Et si on veut quelques tomates, c'est pas obligatoire parce que ça peut générer un petit goût acide. On laisse cuire doucement jusqu'à ce que les cagouilles soient cuites. Voilà la recette des petits gris à la charentaise que l'on trouve sur le site officiel de la confrérie de la cagouille, dont la maxime est, Pascal Olivier,
bavez toujours, mais ne jamais médire.
Voilà. Et donc, nous avons
en disant ça.
Avec nous au téléphone le grand maître de la confrérie de la cagouille, aussi appelé le grand gastéropode. Il s'agit de Claude Moreau. Claude Moreau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, grand maître.
Oui, mais c'est bien ça. Oui, je ne connaissais pas votre radio, là, vous voyez. Hein.
Racontez-nous un peu les débuts de la confrérie de la cagouille, s'il vous plaît.
En 1988, l'agriculture retrouvait un petit peu de la force dans le Petit Charente. À cette époque-là, on était proche, nous, le Nice, comprend une petite ville donc, où il y avait la section agricole nationale de l'INRA. Et les tables gourmandes, qui étaient un ensemble, une réunion de restaurateurs de la Charente-Maritime, voulaient faire la promotion de l'escargot d'élevage sous un seul vocable, cagouille. Donc voyant tout ça, on s'est dit, pour améliorer la promotion, il serait bon de mettre en place une confrérie. Et c'est en 88, donc, qu'on a mis en place cette confrérie en relation avec les éleveurs. C'est ce que je mets sur le site. Nous sommes une confrérie de produits. C'est-à-dire, nous n'avons d'intérêt que parce que nous travaillons avec les éleveurs.
Voilà. D'accord. Et alors, la Charente-Maritime, vous m'avez dit cet après-midi, est le premier producteur d'escargots. Il y a la plus grosse ferme hélicicole là-bas. On vous entend très mal. Peut-être on va essayer de vous rappeler parce que la liaison téléphonique n'est pas super bonne.
Alors,
et si vous aviez même un fixe, ce serait super. Aurélien va vous prendre hors antenne. Vous voyez ça de suite. Comme ça, on va pouvoir avoir une conversation un peu plus audible pour nos auditeurs parce que c'est quand même sympa, moi, je trouve, cette
idée. Il faut qu'il sorte de sa coquille parce que là, ça va pas du tout.
De la confrérie de la cagouille. Ils ont une belle, tu sais comment ils sont, hein, dans les confréries. Il faut toujours une cape, un costume.
Voilà.
Alors,
là,
ils ont, ils sont en vert et jaune.
Couleur salade.
Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est
chapeau.
Couleur salade. Ah ouais. Et il y a un peu, un chapeau un peu plat, comme ça, qui pourrait ressembler à une sorte de béret, mais avec des pompons, sur les côtés. Et alors tout ça sont évidemment des gens très très dignes, hein, les dignitaires de la confrérie de la cagouille.
Évidemment.
faut rester digne.
On va lui demander à Claude Moreau qui fait partie de la confrérie, mais je pense qu'on va retrouver quoi des gens qui sont à la fois des producteurs, mais peut-être aussi des restaurateurs, peut-être voilà des gens qui sont des amateurs, et peut-être quelques amateurs consommateurs. Mais c'est vrai que l'idée de la confrérie, c'est de dynamiser une image. Il y a un but commercial, une filière.
Et voilà.
Claude Moreau, vous êtes là?
Oui, oui, je vous entends.
Ah, je vous entends super bien.
Ah, c'est mieux.
Ah, vous êtes sorti de votre coquille.
Oui.
Ah, parce que tout à l'heure,
on ne l'avait jamais fait.
Ça bavait un peu tout à l'heure au téléphone. Là, c'est fou. qui fait partie? Qui sont les dignitaires de la confrérie de la cagouille?
Alors, on a d'abord, bien sûr, des éleveurs. Des gens qui sont concernés par... on a donc des chercheurs qui étaient sur l'INRA, l'ancien directeur de l'INRA, section agricole, et puis tous les gens qui pensent que c'est un produit qu'il faut faire connaître mieux, puisqu'aujourd'hui, 9 escargots sur 10 que l'on mange en France vient de l'extérieur. Donc il y a un gros problème pour l'agriculture française, dans le sens où on peut pas lutter avec les gens de ce qu'on appelle les pays de l'Est, au niveau du prix de revient d'un escargot. Donc on n'a plus qu'à travailler, nous, sur la qualité. C'est pour ça qu'avec la Fédération Nationale des Lycicoles, on a mis en place un cahier des charges pour un escargot français.
D'accord. Alors, un escargot français de qualité. Vous m'avez dit que la plus grosse ferme lycicole était en Charente-Maritime. Est-ce qu'on entend par plus grosse ferme élevage intensif? Est-ce qu'on est dans, je sais pas, comme aujourd'hui on parle beaucoup de la ferme des 1000 vaches, et ben là, ce serait la ferme du million d'escargots ou du milliard d'escargots.
Alors, c'est vrai que l'escargot, déjà, dans un kilo, il y en a 100. Donc, ouais. On arrive vite, hein, voilà. Non, la plus grosse ferme cette année, chez nous, là, il a fait 15 tonnes.
Ouais.
Bon. Oui.
Et alors, comment ça marche?
C'est simple, c'est dans des parcs. Mm-hmm. Hein, on les nourrit avec donc une farine. Farine qui est faite, bon, bien sûr, par des industriels, mais qui a été mise, la recette a été mise en place par un ingénieur de l'INRA.
D'accord.
Voilà, avec beaucoup de céréales. Voilà, ce qui fait que cette nourriture permet aussi bien à l'escargot qu'à sa coquille de se développer correctement.
Alors, la race d'escargot, parce que là, vous les appelez cagouilles, mais c'est une race précise,
Voilà. Mais nous, chez nous, il y en a deux, hein. C'est le petit gris et le gros gris, ce qu'on va dire, hein. Donc, au départ, c'est le petit gris. Un escargot qui fait 10-11 grammes. L'escargot que vous connaissez sûrement, il y en a aussi sûrement chez vous,
hein. Bien sûr.
Et après, le gros gris, c'est celui qu'on trouvait plutôt dans les pays du Maghreb. D'accord. Qui est plus facile à élever, mais qui est aussi plus gros. Et qui, pour moi, au niveau de la mise en bouche, puisque on parlait de déguster, est un peu gros.
Ouais.
Alors que le petit gris va complètement bien dans notre bouche.
Oui, parce que le gros, il est plus lourd, il court moins vite, donc on peut le garder plus longtemps.
On peut le garder plus longtemps, voilà.
Ouais, ouais. Et vous savez qu'un escargot, c'est extraordinaire. Un escargot, ça pèse 10-11 grammes. C'est capable de tracter un parallélépipède rectangle de 250 grammes. Alors faites le rapport entre votre poids et ce que vous pourriez tracter.
Et un escargot, c'est un hermaphrodite. Donc un coup, ça joue les femmes, un coup, ça joue les garçons.
Non.
Ah non.
Parce que là, je ne connais pas d'autres animaux qui aient comme l'escargot les deux sexes. Parce que l'escargot a les deux sexes. Et quand il copule, d'abord ils sont en phase mâle, il y a interpénétration au niveau des... Voilà. Il a les deux sexes.
Ah, ils font les deux. Les deux font l'homme et la femme à la fois.
Voilà, enfin, voilà.
La cagouille et le
cagouille.
Le cagouille. Qu'est-ce que la confrérie de la cagouille, évidemment, elle est là pour porter la filière, etc. Donc vous allez sur des foires, sur des marchés, vous faites des intronisations de personnalités.
Voilà. Alors par exemple, on va pas là le 5 octobre, on va aller dans une commune de Charente, puisqu'on rayonne sur les départements du Poitou-Charente. On va voir une commune qui s'appelle Saint-Clos. Et là, on y va, on sort toujours, nous, avec un héliciculteur. C'est-à-dire, nous, on fait la promotion générique de l'escargot, on travaille pour aucun producteur. Et nous, la promotion qu'on fait, on la fait gratuitement, on fait déguster gratuitement les escargots. Très souvent, ce que l'on fait, on les fait en beignet, c'est extraordinaire. La recette est sur le site. Et pendant ce temps-là, ça permet effectivement à un héliciculteur qui est là de vendre ses produits escargots.
Comment ça coûte comment ça se vend l'escargot, à la douzaine ou...
C'est-à-dire, si vous voulez vous les cuisiner pour vous, on en cuisine par 100, on fait par 100. Hein.
Alors un 100, bon, enfin, un 100, ça vaut quoi?
Moi, chez moi, on les a toujours plutôt cuisinés par 500 ou 1000, en fait, parce qu'il fallait quand même...
Ah oui,
que...
au 1000, ah ben 1000,
si on,
oui.
Si on aime ça, il faut qu'il y en ait, quoi.
Alors, ça coûte quoi, un 100 d'escargot de cagoule de Charente?
Ça peut être entre 7 et 9 euros.
D'accord. Et là, c'est rentable pour le producteur?
Oui, alors c'est pareil. Au départ, les lissicultures, c'était surtout une diversification par rapport à des agriculteurs. Et puis maintenant, on a des gens qui sont devenus simplement des hélicicoulteurs complètement. On compte à peu près 400 hélicicoulteurs en France. Mais je pense que pas 400 ne font que ça.
Et donc combien en Charente?
En Charente, on a une vingtaine d'éleveurs, mais on a des gens qui vont produire peu et d'autres qui vont produire plus. Tout dépend de ce que l'on cherche à avoir comme revenu. Hein?
Voilà. Je reviens, parce que du coup je suis parti sur votre page cagouille.com rubrique recettes, et oui. À peu près toutes les recettes commencent par nettoyer les escargots, et ils doivent être encore vivants, etc. etc. Mais justement, la partie peut-être la plus délicate et la plus compliquée quand on veut faire des escargots, c'est oui. Les nettoyer quand ils sont vivants. Alors expliquez-nous, vous, votre façon de nettoyer les escargots.
Oui. Alors c'est pas compliqué. Un escargot, généralement, si on ne parle, nous, de l'escargot que d'élevage, d'accord? Donc, il n'y a pas besoin de le faire jeûner.
Ah.
Quand on le fait jeûner, c'est qu'on a pris un escargot de ramassage. Et suivant la saison, suivant ce qu'il a mangé, il a besoin de sortir un petit peu ce qu'il a mangé. Mais en élevage, il a une nourriture équilibrée, donc on peut le cuisiner sans avoir à le faire jeûner, d'accord?
D'accord. Donc on le fait pas. Déjà, on le fait pas jeûner 15 jours. On est bon. Mais par contre, il faut le faire baver quand même à un moment. Il faut lui en faire baver.
Alors, bon, il faut le nettoyer. Donc nous, on alterne un petit peu sel et vinaigre. Mais si je vous mets dans la bouche du sel, vous allez constamment produire de la salive.
Oui.
Donc chez l'escargot, une fois qu'il est un petit peu propre, c'est pas la peine de continuer pendant des heures parce qu'il aura constamment de la bave. Parce que c'est comme je vous disais, si nous on prend du sel dans la bouche, on va constamment effectivement baver.
D'accord. Donc en fait, on élimine la première bave au gros sel, genre. Après, on rince.
Et au vinaigre,
Et au vinaigre en même temps, d'accord.
Voilà. Ouais. Voilà. Et puis on les brosse bien.
Mais combien de passages, par exemple, dans une bassine là
À l'œil, j'allais dire deux passages, ça suffit. Il faut pas. Faut pas
exagérer, d'accord.
C'est
pas
non. Et on le voit bien à l'œil. Hein. Et on nettoie bien aussi la coquille avec une petite brosse si elle est sale. Mais généralement, en élevage, ils sont pas sales, quoi. Et alors après, on les cuisine comment? Alors normalement, l'escargot, là, il y a deux phases. D'abord, on le tue. OK?
Donc on le saisit pour le tuer.
Alors on le tue. C'est-à-dire là, on fait bouillir de l'eau et on le passe dans l'eau 3 minutes. Il est mort.
Certaines de vos recettes sont jetées directement dans l'huile. Hein.
Avant ils ont été tués. Hein. Normalement on les tue. Hein.
On les ébouille en temps.
Voilà. Et après, suivant ce qu'on va faire, on va les courbouillonner. Hein. On va les passer dans un courbouillon fait donc avec poireaux, carottes.
Un peu de vin blanc, c'est bon.
Ah tout à fait. Un bon courbouillon. Hein, et il faut que ce courbouillon ait bouilli pour qu'il ait eu du goût. Hein, voilà. Et quand ce courbouillon que vous goûtez est bon, et ben là, vous lancez vos cagouilles quelques minutes dedans, 5-6 minutes, ça suffit.
Alors, je suis d'accord, mais quand même, je suis sur votre site. Hein, moi, j'invente rien, hein, monsieur le gastéropode. Il y a écrit, après nettoyage des cagouilles, elle doit être encore vivante. Les jeter dans un faitout dont le fond est tapissé d'huile chaude.
C'est cruel.
Pour cette recette-là.
Mais c'est la cagouille petit gris à la charentaise.
C'est des recettes, vous avez vu, il y en a plein.
Ah, je suis d'accord.
Et après, nous, ce qu'on va faire, avec ce que je viens de vous dire, on va les décoquiller. C'est facile à faire. Hein. Et là, vous allez pouvoir soit les mettre dans des petits pains, vous allez pouvoir... Tiens, en ce moment, il y a encore des tomates cerises. Vous coupez une tomate cerise en deux, vous mettez un escargot dedans au milieu. Il y a plein de choses. Hein. Mais surtout, ne pas trop les faire cuire. Parce qu'il y a un petit livre qui s'appelle 199 recettes d'escargots, où ils les font cuire, mais trop longtemps. Parce que ce qu'il faut, c'est que quand vous retrouvez l'escargot dans votre bouche, il faut qu'entre le palais et la langue, vous retrouviez la forme de l'hélice, de l'escargot, et une certaine densité. Hein. Il ne faut pas que ce soit un machin tout mou qui se déroule.
Oui, bien sûr. Alors, je reviens juste sur, avant qu'on se quitte, parce que l'heure tourne malheureusement, sur la commercialisation. On peut les acheter vivants, par 100, mais aussi en boîte, il y a bien sûr...
Ça existe en conserve, hein.
Ouais.
En conserve, ouais. Bon, nous, on travaille avec des chefs. Vous avez pu voir aussi que chez nous, on a un grand chef, là, Grégory Coutenceau, qui est membre de la confrérie et qui travaille beaucoup sur l'escargot. C'est vrai que tout compte fait, il préfère ne pas les acheter en conserve. Vous aurez une meilleure recette d'escargot si c'est vous qui l'avez... Si c'est vous qui l'avez tué, courbouillonné, cuit à votre façon. Hein? Voilà.
Alors, est-ce que par chez nous, c'est ici Midi-Pyrénées, est-ce que il est facile pour nous de trouver de l'escargot charentais, de l'escargot charentais, parce que de l'escargot des pays de l'Est, on en a plein.
On a un fronton chez Guillaume Vérac, il en fait, il en
ah oui,
il
non,
fait
mais,
pousser.
Oui, non mais d'accord, voilà.
le petit gris, qu'il soit charentais ou chez vous, c'est pareil. Donc sur le net, là, vous faites production d'escargot et vous allez avoir une liste par département. Des éleveurs qui ont un site. Ah, mais vous en connaissez sûrement.
Écoutez, c'est vrai que je ne pensais pas à Guillaume Vérac.
Domaine de Bélaïc.
Il faut faire confiance à ces éleveurs parce que c'est beaucoup de boulot. Hein. Il ne suffit pas de mettre des escargots dans un coin. Et puis
on en a rencontré souvent qui n'ont pas tenu durant des années. C'est-à-dire que visiblement, c'est quand même une partie assez difficile d'avoir une ferme en hélicoculture.
Oui, puis après, il faut les commercialiser. Alors tout dépend de ce qu'on fait.
Il faut transformer, commercialiser. Alors, etc.
Ouais. Puis le temps qu'il faut pour les emmener au pâturage aussi, c'est lent.
C'est lent, et puis alors, c'est ça, ça prend du temps, quoi. Berger d'escargots, c'est
pas une vie.
C'est quand votre prochain chapitre, grand maître ?
Nous, ce sera le 28 mars prochain. Alors, je vous invite, hein. Voilà, 28 mars, et on le fera sûrement dans l'île de Ré.
On ira peut-être faire un tour à l'île de Ré au prochain chapitre de la confrérie de la cagouille. Merci grand maître d'avoir été avec nous par téléphone, Claude Moreau.
À bientôt. Au plaisir de vous avoir.
Avec plaisir.
Bavez toujours, mais ne jamais médire.
Ah oui, bavez, vas-y.
Bavez toujours, mais ne jamais médire.
La maxime.
Bravo.
Bravo. À bientôt.
À bientôt. Merci.
Qu'est-ce qu'on déguste ? La suite, dans quelques instants.
CFM. CFM.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Avec Vinovali, cave de Técou et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons d'Ovali.
Qu'est-ce qu'on déguste ? La suite. Avec le druide de la gastronomie sur la pente descendante, Pascal Olivier, on va le mettre sous, pas sous perf, mais peut-être sous, je sais pas, Red Bull, ce serait
pas mal. Ah oui, il faudrait un truc, un dynamiseur.
Un truc qui donne des airs. Hein?
Oui, je vais aller à la foire bio, je vais aller chercher du dynamiseur.
De la guarana. De la guarana, de la spiruline, par exemple, on pourrait le mettre sous spiruline. Il y en aura sans doute à la foire Bio Synergie dimanche, depuis laquelle nous vous parlerons, puisque nous animerons un qu'est-ce qu'on déguste hors série dimanche de 11h30 à 13h pour fêter les 50 ans de Nature et Progrès.
C'est toujours un bon moment, il y a une bonne ambiance.
Alors, Christophe Bory est toujours présent, il a pris un peu de poids, mais ça ne se voit à la radio. Donc, pas de problème, il va faire un petit régime détox. Voilà. Je pense que tu pourras trouver ça aussi à la foire Biosynergie.
Dimanche, je vais m'intéresser à ça. Ouais.
Quant à Gaël, lui, non, il continue petit à petit régime, un peu de sport, et on le voit, ça fonctionne. Il a maigri encore, il a perdu du poids, et il a bronzé. C'est ça.
Ouais, ça fait du bien.
Hein, non, mais c'est vrai, tu as bonne mine.
Ouais, merci.
Les auditeurs ne le voient pas, mais nous.
Mais la bonne mine, on le voit sur les photos. Là,
c'est bien de le signaler.
Tu nous présenteras.
On va parler de soda. Alors, ni l'alcool, ni le truc à la con de Kev Adams qui passe sur je ne sais plus quelle chaîne, mais plutôt du héros de bande dessinée du même nom.
D'accord.
Qui fait sa rentrée, lui aussi, dans Spirou.
Ok. Une recette peut-être du
coup. Oui, on aura une recette.
D'accord. Et puis
tagine de coin confit.
On passera un coup de fil à Simon de la cave BBR qui a déménagé et qui va nous donner le vin de la semaine. Mais d'ici là, tu nous dis qu'est-ce qu'on déguste ?
Oh là, tout simplement un béaba rosé Comté Tolosan, Merlot Malbec, fait par les vignerons du Brulois à Dunes.
Quand c'est frais, c'est bien.
Bio, mais écoute, c'est bien fait, et puis voilà.
Quand c'est frais, c'est bien, c'est bien ça.
Ouais, c'est agréable.
Ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche très bien. Et on écoute Pata Pata. Myriam Makeba.
Pour le
voir,
on
va
la trinquer. C'est plus sur la trinquer.
Santé, bonheur. C'est vrai, il sonne pas sévère, hein. Avec ce titre Pata Pata qui a été d'ailleurs repris en 1980 par Sylvie Vartan. En fait.
C'est comme je crois que c'était Nicole Croisil.
J'avais raison, bon, j'avais dit Sylvie Vartan, il avait dit Nicole Croisil.
Non, ça, ouais, tout le monde l'a repris, c'est le tube mondial. Donc Myriam Makeba qui était née en 1932 à Johannesburg et qui est décédée en novembre 2008 en Italie, qui était une chanteuse de ce qu'on appelle de l'ethno-jazz et surtout une activiste politique sud-africaine qui a été naturalisée guinéenne dans les années 60, algérienne en 1972 et puis citoyenne d'honneur française en 1990. Elle a parfois été surnommée Mama Africa pour ses positions. À 20 ans, elle commence à chanter presque par hasard avec un groupe local en Afrique du Sud à Johannesburg qui s'appelait les Cuban Brothers. Et elle devient très rapidement une vedette. Elle se sert de son nouveau métier pour dénoncer le régime de l'apartheid. En 1956, donc, elle écrit son plus grand succès que l'on vient d'écouter, donc la chanson Pata Pata, avec laquelle elle fait le tour du monde. En 1959, elle est contrainte à un exil qui dura 31 ans en raison de son apparition dans un film anti-apartheid qui s'appelait Come Back Africa. Et en 1966, elle reçoit un Grammy Award pour son disque An Evening with Harry Belafonte. Et elle devient la première sud-africaine à obtenir cette récompense, énorme récompense. Elle a joué beaucoup avec beaucoup de jazzmen, Dizzy Gillespie, plein Harry Belafonte bien entendu. Et elle décède en 2008 des suites d'un malaise à l'issue d'un concert de soutien à un cinéaste traqué par la mafia. Donc jusqu'au bout, c'était vraiment une grande bonne
militante.
Femme, une grande militante et elle s'est servie vraiment de son métier pour défendre les opprimés, etc., etc.
Eh bien voilà, grâce à Pascal Olivier et à Qu'est-ce qu'on déguste, vous pourrez encore une fois briller en société ce soir
dans
le restaurant, vous pourrez dire la vie de Myriam Makeba.
En 2 minutes 30.
Ouais, pas mal. Alors nous, on est au Béaba, mais à quoi est-ce qu'il est Simon Delperrier de la cave BBR?
Qu'est-ce qu'il va nous conseiller?
On pourrait lui demander tout simplement de nous donner quelques idées de vin à déguster
ce week-end.
Ce week-end. Puisque on sera à la foire bio, mais lui il sera dans sa boutique qui a légèrement déménagé.
Est-ce qu'il en a un peu des côté du Quercy, lui?
Lafage.
Je crois qu'il a du Lafage.
Domaine de Lafage, bien sûr.
Il a des vins nature. Hein, c'est le principe de la
nature ou bio.
Nature.
Pas pareil.
Oui. Mais un vin bio, ça n'existe pas. Faut-il le rappeler? Un vin issu de l'agriculture biologique.
Oui, tout à fait. Et un vin nature, c'est un vin qui n'est pas tripatouillé. Il n'y a pas de soufre, il n'y a pas de levure exogène. C'est-à-dire que c'est fait avec les levures qui sont sur la peau du raisin, la prune du raisin. Il n'y a pas de SO2, il n'y a pas de soufre, il n'y a
donc
rien.
Pas un
vin nature.
Voilà. Alors, on appelle Simon qui doit être chez lui, dans sa cave.
Dans sa boutique.
Dans sa boutique. Ça, c'est pour le moment. Il y a encore écrit le nom de l'ancienne boutique.
Chez Georgette.
C'était une petite boutique pour les enfants, de chaussures
non.
pour les enfants.
Non, de chaussures pour, pas spécialement pour les enfants, de chaussures pour dames.
Ah bon?
Chez Georgette.
D'accord. Pour dame avec des petits pieds, alors.
Pour dame avec des petits pieds, oui.
On n'arrive pas à joindre Simon. Ça y est, tiens, il est là. C'est lui qui rappelle, je pense. Simon Delperrier, cave BBR.
À Montauban, rue du Greffe.
On est bien content qu'il soit resté par là, parce qu'il était question.
Qu'il parte plus loin, oui.
Il était question qu'il parte.
C'est une zone industrielle?
Non. Il devait
faire du vin dans le Cahors.
D'accord. Oui. Qui se recycle.
Hein. Il est mieux dans sa boutique, je pense.
Oui, il est bien dans sa petite boutique, là.
Oui. Il est plus près de nous, surtout.
Et puis face, il y a une boutique de produits italiens qui a ouvert. Rue du Greffe, c'est assez impressionnant.
Comment
hein,
s'y avoir une belle brochette on va aller y faire une émission.
Oui. On en a fait une.
On va en refaire une.
Mais il y a longtemps.
Ah oui, il y a des années.
Depuis, il y a deux boutiques italiennes qui se sont ouvertes. Un truc qui s'appelle les 400 goûts.
Les 400 goûts, qui est une épicerie fine. Il faudra les rencontrer.
Puis un truc italien de pâte à côté.
Oui, tout à fait.
Il y a Simon en face. Bon, il y a la boucherie à Genèse. Il veut jamais parler, la boucherie à Genèse. C'est très bon. Laurent Massino, DJ Cantaloupe, qui vend le fromage à la fine bouche. Et puis voilà. Puis Simon. Allô, Simon!
Salut, ami!
Salut, Simon! Salut.
Bah, quand même.
Bon, est-ce que tu es bien dans ta nouvelle boutique?
Oh, ben, ça va, on est bien, ouais. J'y suis bien. Ça y est, on a fini les dernières installations, donc.
Ça fait quoi de passer de 12 mètres carrés à combien tu as, là?
35 mètres.
Ah oui, trois fois et demi.
Ça révolutionne le métier.
Quand je suis passé le voir cet après-midi, il était en train de travailler sur une vitrine pour ses whisky. C'est une très très belle collection de whisky qu'on trouve nulle part ailleurs que chez lui, quoi. N'est-ce pas?
Voilà. Eh ouais, exact. Enfin, qu'on trouve pas ailleurs, qu'on trouve pas à Montauban, tout au moins. Voilà.
Dis-moi, Simon, on te passe un coup de fil pour que tu nous donnes une idée d'un ou deux, plusieurs vins à déguster ce week-end. Donc voilà, tu as un peu le quartier libre pour nous donner le vin de la semaine.
Oui, alors ben on va profiter de cette nouvelle rentrée. En fait, c'est un jeune vigneron qui a repris les vignes de son grand-père. Donc Pierre Fabre, il s'appelle. Ça s'appelle Guérard et compagnie. C'est une Syrah en Côte du Tarn. Et c'est un jeune néo-vigneron qui a une trentaine d'années, qui habite à Montauban et qui a pris ses vignes dans le Tarn. Et une Syrah qui est super agréable, qui vaut 10 euros. Et du pur plaisir. Donc un vin léger frais parce qu'il fait chaud là quand même ces jours-ci.
Et c'est bio.
Et alors ça c'est pas bio parce que pour l'instant, comme je dis souvent, c'est quand on sait pas faire au début, on n'essaye pas de s'amuser à faire des choses qu'on maîtrise pas. Donc je l'ai rentré quand même s'il était pas bio parce que ben il est dans cet esprit de vouloir y aller, mais petit à petit, de manière progressive. Donc voilà, ça va.
Côte du Tarn. Donc ça se situe où les Côtes du Tarn?
Côte du Tarn, en fait, c'est sur la région gaillacoise. La seule différence, c'est que là, il est sur une pure Syrah. Donc, il s'est mis en Côte du Tarn de manière à pouvoir faire ce type de monocépage.
Et voilà. Une autre proposition ou on reste là-dessus?
Redonne le nom quand même. Qu'est-ce qu'il y a sur l'étiquette?
Alors, Gérard et compagnie Syrah.
Voilà. Gérard et compagnie Syrah, c'est ça?
Gérard.
Ah, Gérard. Pardon.
Gérard
et compagnie. 10 euros. Voilà. Un petit vin qu'on laisse un peu au frais, qu'on boit frais comme ça.
Ouais, c'est super. Et après, le Clos des Jarres en Minervois s'appelle l'Estrangier. En Minervois, ça vaut 10 euros. C'est un beau Sauvignon, bien charnu, bien équilibré. Et bah, c'est mon petit coup de cœur, ça, parce que Vivien est un vigneron qui a une trentaine d'années aussi. Enfin, je suis assez fan des néo-vignerons, des jeunes vignerons, surtout quand ils font du bon travail. Donc voilà, ça sera ça aussi. Clos des Jarres, l'Estrangier.
Eh ben voilà, merci Simon.
Voilà. Merci à vous.
Il y a une foire au vin à la cave Hébert ou c'est la foire au vin permanente?
Il y aura une foire au vin, du 23 au 29. Voilà.
Est-ce qu'il y a des petits apéros qui se font le samedi matin au moment du marché?
Bien entendu, c'est pas encore prêt, mais ça sera prêt de la semaine prochaine. Donc dès samedi prochain, on fait un gros apéro tout bien aménagé.
Ah d'accord. Voilà.
Est-ce qu'il y a toujours
demain matin? Non, ça sert à rien de passer alors demain matin.
Si, vous pouvez passer, bien entendu, mais il n'y aura pas les aménagements précis. Voilà.
Ouais, est-ce qu'il y a toujours du Natural Mystique pour ceux qui aiment ça?
Bien entendu.
Natural Mystique, Guillaume Barré.
Du vin de Cabarnès. Ouais, c'est mon vin préféré. J'ai toujours pas descotché de ce vin, de toute manière. Ça coûte 15 euros, mais qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est du bonheur, c'est ce vin. C'est bien.
Ouais, non, mais c'est énorme, c'est très bon.
Ah oui.
C'est très bon.
Nous, on aime.
Non mais oui. Voilà. Bah, demain matin tu m'en mets une de côté parce que voilà.
Ça y est, je lui ai mis le verre dans la tête là, c'est bon.
Le fait d'en parler, ça y est.
C'est ça. Bon. C'est ça. Merci Simon.
À demain, jour de marché. Pas d'apéro, mais on vient de te faire un petit bisou.
Kev Bébert, rue du Grève. Ciao.
Merci ciao, ciao. Ciao.
On me dit dans l'oreillette qu'on commence à se parler à nouveau les uns sur les autres comme si c'était un Qu'est-ce qu'on déguste de 1986. Ouais. Je vous rappelle que ça fait quand même quelques années que nous animons cette émission tous ensemble et que nous avions pris le...
Mais c'est la rentrée, il faut qu'on reprenne
l'habitude de ne pas nous parler les uns sur les autres.
J'ai l'impression que c'est une attaque directe parce que
pas du tout, tout le monde l'a fait.
Moi je sens qu'on va se faire virer, Pascal, et tous les deux. On va se faire virer de cette émission, Pascal.
Aussi.
Bon, avant qu'on parle, on peut donner peut-être une petite recette, non? Ou pas?
Ah bah oui, on peut après le jingle.
Allez.
Ça va, tu vas pas danser non plus, tu la craches ta valda.
C'est un jingle ça. Ah bon, non mais ça peut durer 3 heures.
Pour casser le rythme.
Pour casser le rythme, c'est pas mal ça. En ce moment, il y a des coins. Et quand il y a des coins, coins, eh ben qu'est-ce qu'on fait? On peut faire de la pâte de coin, on peut faire de la gelée, mais ça je laisse ça faire à j'ai des copains qui font ça, notamment Raymond.
Salut Raymond.
Mais moi je fais avec les coins un truc qui est extraordinaire, c'est un tagine d'agneau au coin confit avec du gingembre et du miel. Ça c'est un truc. Bon, il nous faut quoi? Il nous faut de l'agneau. Vous pouvez choisir la souris d'agneau, vous pouvez choisir un petit peu de collier, vous pouvez choisir des côtelettes, vous pouvez choisir. Vous demandez à votre boucher des bons morceaux d'agneau. Et il nous faut deux oignons, il nous faut du gingembre frais, il nous faut 3 gousses d'ail, il nous faut du rasselanout que vous allez aller acheter dans une épicerie où vous allez trouver ça. Et il nous faut des pistils de safran, il nous faut du coin, il nous faut du miel, il nous faut de la coriandre fraîche, autrement dit du cosbore, il nous faut de l'huile d'olive, du sel et un demi-citron confit au sel, dit citron de Marrakech. Eh bien, on prend sa viande, on la détaille en gros cubes, on la fait revenir dans de l'huile d'olive. Une fois qu'elle est bien revenue, on ajoute le gingembre, le rasselanout, et puis le sel. Une fois que c'est bien revenu avec le dans l'huile, on sort, on jette l'huile, on remet ces morceaux de viande, on met de l'eau. Et puis, on va faire cuire ça doucement pendant à peu près une vingtaine de minutes.
Mais il faut avoir le plat à tagine.
Alors, on peut le faire, oui, on peut le faire dans le plat à tagine que l'on va mettre au four, que l'on va mettre sur le gaz, ou alors, il existe maintenant aussi une marque française, Seb pour pas la nommer, qui fait aussi des tagines électriques. J'en ai un, c'est pas mal du tout. Tu démarres ton truc à midi et tu l'as prêt à 19h ou 20h.
Parce que ça est similaire au plat
traditionnel. Ah oui, ça mijotait très doucement, voilà. Ah, oui. Parce que le tagine sur le plat... dans le plat à tagine sur le gaz, il faut mettre une plaque. Alors avant, on mettait des plaques d'amiante, bien sûr, parce qu'on avait que ça sous la main pour isoler du gaz direct. Alors...
Ah, c'était bien. Ah, depuis, on est tous morts de cancer.
Tagine à l'amiante.
Eh ben écoute,
tagine à l'amiante.
Moi, quand j'étais gosse, tu sais, dans la plaque, les plaques d'amiante, comme ça, on se faisait griller des tartines de pain dessus. On mettait la plaque d'amiante sur le gaz.
Toi, tu vas morfler.
Hein. Bah oui, ben
toi, tu vas mal vieillir.
Bah oui, bah, écoute,
c'est pour ça, tu vois.
C'est ça la faiblesse.
La faiblesse.
Tu vas poser de l'évrite pendant 20 ans, mais bon. Voilà.
D'accord.
Donc, pour reprendre notre
tagine,
une fois qu'on a fait revenir sa viande, bon. On mouille avec de l'eau et on rajoute son citron confit, en fait ses épices, etc., etc. Ça, on va le faire cuire à peu près une trentaine de minutes. On va prendre à part ces coins, on va couper en quatre. On va garder la peau. Normalement, la peau du coin, on la passe sous l'eau. Il y a une espèce de duvet par dessus où on le frotte. On enlève, on les coupe en quatre. C'est très dur, hein, le coin. C'est imbouffable. Cru.
Faut le cuisiner, ouais.
Voilà. On enlève les graines. Et on le coupe pareil en gros quartier. On va le faire revenir avec le miel de façon à faire un espèce de caramel. Et là, on va le mouiller avec le bouillon que l'on va extraire de son agneau avec ses légumes et avec ses épices et tout ça. Et bon, une dizaine de minutes à peu près avec les coins vont prendre une couleur orangée. Et ensuite, on va monter, on va mettre, soit dans le plat à tagine pour le présenter, on va mettre sa viande et ses coins en même temps avec le jus, et on va parsemer avec du coriandre frais. Et c'est bon, mais c'est bon. Et on peut rajouter des amandes si on veut. C'est pas mal aussi.
Ouais, j'ai fait.
Donc, coin, gingembre, miel. C'est délicieux.
Et pendant ce temps, sur la page Facebook, j'ai cliqué j'aime sur la pêcherie à Montauban. C'était une poissonnerie. Ouais, une poissonnerie qui est zone nord derrière.
Vers le chemin de Matra.
Ouais.
Oui, après l'école Jean Moulin.
Voilà, et qui initialement était installé à Villebourbon, oui. Et qui paraît qu'il travaille très très bien.
Oui,
voilà.
oui.
Ils sont passage, parce que
pris des sardines cet été, on a eu pris des sardines, on a eu pris des couteaux, des choses comme ça. C'est toujours très très bon, très frais, très bien.
Soda. Et non pas Sodad.
Oui, c'est vrai. Qui nous a induit en erreur la semaine dernière déjà. Enfin moi surtout, par rapport à Nina Simone.
Mais non,
j'avais confondu Nina Simone et Cesaria Evora.
Cesaria Evora, effectivement.
Donc voilà.
Ouais,
donc,
ouais. Quel enchaînement. On peut confondre tout le monde avec tout le monde.
Quel enchaînement. Donc oui, on a parlé de vin, on a parlé de recettes, donc on va parler de soda maintenant. Alors soda, ouais. De Tom et Dan pour cet épisode qui s'appellera Résurrection. Alors c'est une série qui a été créée en 85 par Tom au scénario et Warnant au dessin. Dessin qui sera repris au milieu du volume 3 par Gazzotti. Et après 9 ans d'absence et un nouveau changement de dessinateur, le plus religieux des flics new-yorkais fait sa rentrée dans Spirou. Alors fils unique d'Adam, Nathanael, Solomon et Mary McIntyre, Soda, donc David Solomon, Soda, est un policier new-yorkais taciturne et efficace. Et pour ménager sa mère, qui est cardiaque et très croyante, il lui a toujours fait croire qu'il n'était qu'un paisible pasteur, un peu peureux. Après la mort violente d'Adam, père de David et shérif de Providence, Marie, la maman, bouleversée, se réfugie chez son fils à New York. C'est dur à dire chez son fils, en fait, à New York. Au 416 Church Avenue, à Manhattan. Incapable de lui avouer qu'il est devenu lui-même policier, David continue de lui jouer la comédie. Habitant au 23e étage, il a appris à se changer en moins d'une minute tous les matins dans l'ascenseur pour quitter son faux costume de ministre du culte et redevenir le glacial lieutenant Soda. David envisage régulièrement d'avouer à sa mère sa véritable identité, mais à chaque épisode, une circonstance nouvelle va l'en empêcher ou va le convaincre de repousser cette douloureuse confession à plus tard. Alors chaque volume de la série raconte une histoire indépendante des autres titres. Elle se conclut aussi de la même manière, une vue de l'ascenseur qui représente un peu la frontière entre les deux vies. Alors moi j'adore le dessin assez école Franquin, le découpage très cinématographique qui était assez nouveau dans les années 80, qui donne un grand dynamisme à la série, et le côté un peu sombre justement qui est très en décalage avec le dessin. Et puis il reste toujours ce fameux mystère des deux doigts manquants à la main gauche de Soda, qui n'a jamais été expliqué jusqu'à présent. Alors j'ai hâte de voir ce que va donner cette aventure, qui pour une fois devrait, elle, se dérouler en deux albums. Alors pour l'instant, le dessin est plutôt pas mal, la prépublication dans Spirou, qui sortira ensuite aux éditions Dupuis. Je crois que Dan, à la reprise, a pas trop à rougir devant ses prédécesseurs. Voilà, c'est une série que j'aime vraiment bien, qui a 12 tomes sortis en album aujourd'hui, qui s'appelle Soda, aux éditions Dupuis. Et là, le nouvel album s'appellera Résurrection. Et c'est prépublié actuellement dans Spirou.
Allez, on arrive au bout de cette édition de Qu'est-ce qu'on déguste. Avant de se donner rendez-vous à dimanche 11h30 en direct de la foire Biosynergie devant Eurythmie.
Il va faire beau, ça va être bien.
On va se faire un petit tour de table. Alors vous nous donnez vos coups de cœur, hein, ce que vous avez envie. Ça peut être un concert, ça peut être un resto, ça peut être ce que vous voulez. Mais chacun me propose quelque chose pour ce week-end, s'il vous plaît.
À midi, j'ai mangé Welcome, le nouveau restaurant qui est à Sapiac. Et c'est vraiment très bien. Il y a un menu à 15 euros, entrée, plat, dessert. C'est
où à Sapiac?
C'est rue de l'Abbaye.
D'accord.
Donc, à bas la table du Maroc.
C'est la grande rue qui va vers la zone industrielle.
Là, c'est de Sapiac, d'accord. De l'autre côté, tu continues vers Leclerc. Welcome. C'est un restaurant immense avec un système de box parce qu'il a repris les anciennes cuisines.
Tu vas y arriver.
On balle pas.
Ouais, d'accord.
Donc il a conservé les boxes
à
l'intérieur.
La cuisine mauvaise. Voilà. D'accord.
Ah oui, c'est une idée sympa.
D'accord.
Le welcome.
C'est joli.
Très bien. C'est très joli. Le patron est sympa. Voilà.
Et moi, je vais faire une tentative ce week-end chez notre ami Vito, puisqu'il se lance dans le macaron. Donc je vais aller essayer les macarons chez Vito, donc la table du cardinal à Montpezat-Quercy.
Ok.
C'est plus près de chez moi.
D'accord.
Pascal. Mais moi, je vais écouter du jazz à Grisolles, puisque le 19, 20 et 21 septembre à Grisolles. Alors ce soir, il y a Philippe Lejeune Quartet, pointure. Demain, de l'électro-jazz et du jazz vocal. Et dimanche, Gumbo Jazz Band de la New Orleans. C'est Gumbo Jazz Band, voilà.
Ah ben voilà,
je vais y aller avec ton bouquin, là, et voilà. C'est pas mal, c'est concert gratuit, c'est pas mal, c'est bien,
c'est
bien fait.
C'est pas concert gratuit, hein, c'est 12 € le concert, enfin les apéros concerts sont gratuits.
Voilà.
Et puis ensuite, chaque soirée est à 12 €. Mmh. C'est le week-end doux, c'est assez sympa. On en a parlé avec le programmateur en début de semaine. Vous pouvez retrouver cet entretien sur cfmradio.fr. C'est Château Chantant pour les Journées du Patrimoine. Donc il y a des concerts un petit peu partout.
Ça c'est bien aussi.
Voilà, il y a OVO ce soir. Le retour des soirées jazz, tu sais, des mensuels du jazz, ça, voilà, ça c'est ce soir. La rentrée du Bolet Gasson à Castres, c'est ce soir également. À Moissac, Chasselas et Terroir sont à la fête pendant tout le week-end.
Eh oui.
Demain soir, au Métronome, à Toulouse, c'est les 25 ans d'avant mardi avec une très très belle programmation, c'est gratos. Et puis il y a les nuits frappées, on en a parlé bien sûr de Bruit Nickel, avec plein de batucada.
Les Vendanges à l'ancienne.
Les Vendanges à l'ancienne.
Des Coteaux du Quercy.
Il y aura la 8e édition de la Sapiacaine. Oui, c'est ça, c'est de la Sapiacaine.
Ah, un peu de sport.
Donc un peu de sport
quand même.
Un petit dimanche matin.
Dans le Tarn, 7e édition du Rock in Opposition avec Magma.
Merci.
Aurélien.
Pas d'abeilles, pas de fruits à Moissac, ça je l'ai déjà dit. Et il nous reste bien sûr à annoncer la foire Biosynergie, grand marché bio, foire alternative. D'ici là, nous irons manger bien sûr au restaurant. J'ai mangé hier soir au Balletise, c'était drôlement sympa. Il travaille toujours aussi bien.
Chez Aubin, c'est toujours aussi sympa, toujours aussi bon.
Et puis chez Pierre Cantegrel, on y passe des soirées extraordinaires. Chez Lulu Nantaise, on va y aller en sortant,
oui,
de toute manière, hein, parce que
il met son
petit camion devant et c'est très bien. Et voilà, au revoir.
Bon week-end.
Bon week-end.
À dimanche, 11h30 à la foire bio. Hein.
C'était Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, union des caves de Fronton, de Teco, des Côtes d'Olt et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons de Vali.